Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Les services publics en France, RFI, vous en parle depuis le début de la matinée et tout au long de ces journées en vous proposant des émissions, de nombreux reportages et des témoignages, car les services publics en général, qu'il s'agisse de l'accès au transport ou aux soins, ont été l'un des moteurs de la colère des Gilets jaunes. Dans une heure, Caroline Paré s'intéressera à la santé, crise de l'hôpital, services d'urgence débordés, fermeture des petites structures. Un peu plus tard dans la matinée, Emmanuel Bastide vous emmènera à la rencontre de ces jeunes qui vivent dans ce qu'on appelle la France périphérique, zone rurale, périurbaine ou pavillonnaire. Il faut savoir que 60% des jeunes français vivent loin de tout service. Quant à nous, eh bien, nous allons vous donner la parole durant près d'une heure. Vous qui nous écoutez sur le continent africain, dites-nous si les services publics sont à la hauteur de vos attentes. Alors certes, d'un pays à l'autre, les réalités sont différentes. En tout cas, ce qui ressort d'un rapport de la Fondation Mo Ibrahim, qui évalue, vous le savez, la gouvernance dans 54 pays du continent, eh bien c'est que pratiquement aucun pays africain ne réussit à fournir les services publics de base satisfaisants, alors que la demande pour des services de qualité ne cesse d'augmenter. Alors parlez-nous justement de l'accès à l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau potable, la justice, la protection sociale, tous les services publics sont-ils d'ailleurs concentrés essentiellement dans les capitales, dans les grandes villes? Constatez-vous, comme en France, des disparités entre le milieu urbain et le monde rural? Vos témoignages nous intéressent, on en parle, on prend le temps de se parler, d'en parler ce matin. 33 9 693 693 70, vous continuez évidemment à nous envoyer vos témoignages sur la page Facebook de l'émission ou encore sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Je vous donne le numéro de téléphone, 33 6 89 28 53 64. Et justement, sur le compte WhatsApp, Joseph nous a écrit de Kinshasa. Il nous dit « La République démocratique du Congo, mon pays, est potentiellement riche en eau, mais les autorités sont incapables de fournir de l'eau potable à la population. Pire encore, certains habitants de la capitale n'ont même pas d'eau pour se laver, sans parler des robinets. Ils sont rouillés et provoquent des maladies. » Il cite notamment le choléra, la typhoïde. Alexandre nous a également envoyé ce témoignage de Brazzaville. Il nous dit que dans la plupart des quartiers de la capitale du Congo, on souffre terriblement des pénuries d'eau et d'électricité. Cette situation désastreuse est insupportable pour les populations qui subissent un véritable calvaire. Il nous dit que la gestion calamiteuse des sociétés nationales de fourniture d'eau et d'électricité serait à l'origine des médiocres services rendus aux usagers, ce qui a conduit le gouvernement à privatiser les deux principales sociétés. Malheureusement, nous dit Alexandre, depuis leur privatisation, on constate que la prestation des services n'a guère évolué de manière positive. On vous donne la parole. Si vous nous envoyez vos commentaires, évidemment, je les lis en direct. Un témoignage, puisqu'on parlait de l'eau, de l'accès à l'eau, celui de Samuel qui nous a contacté de Kara au Togo. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour.
Vous êtes à un peu plus de 400 km de la capitale togolaise et vous dites que votre région est régulièrement touchée par des pénuries d'eau.
Non, pas régulièrement.
Ah, par moment. Par moment. Bon, très bien. On vous écoute alors.
Ouais. Et donc, il faut observer que très récemment, la région a été un peu sous le choc de manque d'eau. Mm-hmm. Mais les dirigeants ont rapidement pris la mesure de la chose et ont jubilé à cette crise. Ce dysfonctionnement, il faut le noter, a été maîtrisé. Et donc, ce qui était comme problème a été réglé. Mm-hmm. Et ça va. Il y a des jours, ça va.
Il y a des jours, ça va. En même temps, il y a des jours, ça ne va pas, si j'en crois donc votre réaction, Samuel. Que faudrait-il faire pour améliorer l'accès à l'eau? On voit bien que c'est une priorité importante au regard des réactions et des témoignages que nous recevons ici à Paris, au Standard et sur les réseaux sociaux. Que faudrait-il faire, selon vous, Samuel? Quel est le problème?
Bon, je crois que d'abord, il faut poser le diagnostic. Au niveau de la gestion même, il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a eu une discontinuité entre où il y a eu les besoins et les infrastructures. Mmh. ça n'a pas suivi, les facteurs n'ont pas suivi avec l'évolution des populations. Il y a ce problème qui est là. Le barrage qui nous dessert aujourd'hui est un peu ancien et il pose un problème d'envasement qu'il va falloir résoudre rapidement. Mais l'État a pris la mesure de la chose quand je le dis parce que très récemment, il y a eu des fonds pour les qui ont été mis à disposition pour la réorganisation totale de ce secteur au niveau de la région.
Donc il y a une volonté de s'attaquer au problème. Restez en ligne, Samuel, je le disais à l'instant, l'accès à l'eau, c'est probablement la demande numéro un hein, des auditeurs qui nous contactent. David, vous êtes à Port-Gentil au Gabon, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour. Bonjour à toute l'équipe des RFI. J'espère que tout le monde va bien.
Ah bah écoutez, nous allons bien. Vous souhaitiez également nous interpeller sur l'accès à l'eau. Vous dites que dans votre pays, ça a toujours été un problème.
Oui, ça a toujours été un problème. Et là, je ne parle même pas des zones rurales. Je parle de la capitale politique et administrative qui est Libreville. Il y a des pans entiers de quartiers périphériques qui sont sans eau pendant des jours, voire des semaines entières. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que concernant la privatisation, moi je dirais que la privatisation, dans beaucoup de pays africains, hein, vous l'avez dit au Congo, est une double arnaque. C'est une double arnaque dans la mesure où nous ne comprenons pas, on ne sait jamais à combien sont rachetées ces sociétés dites nationales et combien elles reversent au gouvernement. Hein. On ne sait pas, c'est toujours quelque chose de très opaque. Alors, et puis de l'autre côté, le service est toujours à désirer. C'est-à-dire que le manque d'infrastructure n'a pas suivi justement l'évolution de la population. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de quartiers hein, qui se sont développés et qui n'ont pas accès à l'eau parce que les infrastructures n'ont pas suivi.
Et c'est un peu ce que disait Samuel Akara au Togo, hein, que l'augmentation de la population n'avait pas été anticipée par les autorités. Pour revenir justement à la privatisation, c'est vrai qu'au Gabon, le secteur de l'eau a été privatisé. Visiblement, c'est le cas également, si j'en crois le témoignage sur Facebook d'Alexandre à Brazzaville. À Brazzaville, ça n'a pas fonctionné. Et au Gabon, les consommateurs eux aussi sont mécontents du service rendu par la société qui est chargée de distribuer l'eau potable.
C'est justement cela pose aussi le problème de la souveraineté. On ne peut pas comprendre hein, qu'un pays aussi riche que le Gabon, hein, je vais vous énumérer, vous connaissez bien le Gabon, il y a le bois, il y a le pétrole, il y a le manganèse, il y a l'uranium, il y a le nickel, il y a le fer, il y a autant de richesses, mais qu'il n'y ait pas de service public qui puisse prendre ce problème à bras le corps, notamment le problème de l'eau. Même aujourd'hui au Gabon, même les télécommunications ne sont pas gérées par le Gabon. Vous comprenez bien que ça pose le problème de la souveraineté et c'est vraiment un problème qui nous fait vraiment mal.
Ouais. Et vous pensez que c'est à l'État, évidemment, de gérer des secteurs aussi stratégiques que l'eau, la fourniture d'électricité, l'accès aux télécommunications. Merci David de ce témoignage de Port-Gentil. Je remercie évidemment Samuel qui témoignait de Cara au Togo sur Facebook. Andri nous écrit de Kinshasa. Il nous dit que dans la commune de Limété, où il vit, l'eau coule une fois par semaine et c'est toujours la nuit. La régie des Sceaux, la société chargée de distribuer l'eau potable est incapable de fournir de l'eau, nous dit cet auditeur. Bonjour à Aboubakri.
Oui, Rouen, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Sikasso, au Mali. Vous souhaitez nous interpeller sur les délestages, beaucoup de délestages dans votre ville.
Absolument. Il y a non seulement beaucoup de délestages pour ce qui concerne la fourniture en électricité, et il y a également, comme le disait un auditeur, une certaine partie de la ville, certains quartiers qui n'ont absolument pas accès à l'eau. Donc, ce qui fait que vraiment les services ici laissent vraiment à désirer. La fourniture de ces services sociaux de base laisse vraiment à désirer.
Ouais. Comment faites-vous au quotidien, Aboubakri, pour vivre au rythme des délestages, au rythme des coupures d'électricité? Quelles en sont les conséquences dans votre vie quotidienne?
Bon, écoutez, les conséquences, c'est que dans les parties ruraux de la région, par exemple, c'est qu'il y a quelques personnes aisées qui se permettent qui peuvent se permettre de payer une petite plaque solaire, et une petite batterie juste pour avoir de la lumière. Sinon, la télévision et les autres commodités, on n'en parle pas. Et la majeure partie de la population est carrément dans le noir. Une certaine partie également est carrément coupée du monde pendant certaines périodes de l'année, compte tenu de l'hivernage. Donc, c'est vraiment difficile à gérer.
Et c'est un frein, j'imagine, pour le développement de la région. Sans électricité, impossible de se développer.
Absolument. Vous savez qu'il y a beaucoup de services aujourd'hui qui marchent grâce au courant, notamment les frais, les soudures, tous les travaux qui se font avec l'électricité n'existent absolument pas dans cette partie du pays.
Effectivement, c'est une réalité quotidienne pour 650 millions de personnes sur le continent africain, 650 millions de personnes qui vivent sans électricité. Merci Aboubakri, bon courage et continuez évidemment à écouter RFI tant que possible quand vous avez de l'électricité. 33 9 693 693 70, il est 9h21 ici à Paris. Vos réactions, vos témoignages sur l'accès aux services publics, on en parle jusqu'à 10h heure de Paris. Qu'en est-il dans votre pays? Qu'en est-il sur l'ensemble du continent africain? La réaction d'Abdelwahab, il est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Alors, on parlait d'électricité, on parlait d'accès à l'eau potable. Vous souhaitez nous interpeller sur les transports. Vous dites que l'État nigérien s'est totalement désengagé des transports au point qu'il n'y a plus aucun contrôle maintenant et que tout est géré par des compagnies privées.
Absolument, mais avant de revenir à ça, je voudrais juste souligner comme tout à l'heure, comme l'avaient dit pratiquement les auditeurs qui m'avaient précédé, le service public de façon générale en Afrique reste tellement catastrophique. Et si vous prenez le secteur de l'eau et des télécommunications qui a été évoqué par mes amis donc de l'Afrique centrale, ce qui est aberrant en cette privatisation, ce sont des grandes entreprises, des grands groupes qui gèrent, c'est-à-dire ce secteur. Je prendrai l'exemple de Veolia au Niger pour l'eau, Orange France Télécom pour les télécommunications, etc. Et avec tout ça, le service est désastreux.
Oui. Alors, vous parliez de Veolia, c'est également Veolia qui était chargé de la distribution de l'eau au Gabon et ça s'est très très mal passé à tel point que Veolia a récemment été obligé de quitter le Gabon par la petite porte après 20 ans de présence. Donc on voit bien que la privatisation n'est pas une solution. Concernant justement les transports, puisque c'est une thématique sur laquelle vous souhaitiez nous interpeller ce matin.
Oui. Au Niger aussi, depuis plus d'une décennie, effectivement, le secteur a été complètement privatisé. C'est vrai que maintenant, en termes de disponibilité, il n'y a véritablement pas de problème parce que vous pouvez trouver des bus pratiquement tous les jours pour rejoindre les différentes régions donc de la ville et du Niger. Mais le grand problème qui se pose, c'est que l'État s'est complètement désengagé, c'est-à-dire même le secteur de la régulation et du contrôle du respect des normes dans lesquelles l'État devait être complètement régalien, mais alors il n'y a aucun contrôle. Ce qui fait que les passagers voyagent dans des conditions souvent désastreuses. La plupart de ces compagnies-là ont eu des licences pour faire du transport de passagers. Mais à quoi nous assistons? On ne sait même plus si c'est du transport de passagers, si c'est du transport de marchandises. Vous voyagez avec des commerçants, on vous remplit la voiture avec des marchandises, sans compter également aussi même les problèmes de le pont sécuritaire. Aujourd'hui, vous voyagez avec n'importe quoi, des trafiquants d'armes, des trafiquants de drogue, tout simplement parce que l'État est complètement absent.
Et ces services, services de transport, est-ce qu'ils sont chers malgré tout, Abdelwahab?
Exactement. Ils sont horriblement chers parce que procéder effectivement à la privatisation. Vous l'avez dit dans votre introduction, l'exemple de la France est un peu partout en Afrique, c'est-à-dire l'essentiel des services sont concentrés dans les grands centres urbains, pour ne pas dire la capitale, et on a privatisé le secteur des transports pour permettre effectivement de rapprocher l'administration, donc de l'administrer, par avoir un système de transport public très efficace. Mais malheureusement, à quoi nous assistons? À rien du tout. Pour prendre le cas du Niger, vous quittez Niamey pour aller à l'intérieur du pays, Maradi, Zinder, pour qu'ils soient à environ un peu plus de 500-600 km donc de Niamey. Mais je vous assure, vous n'avez pas moins de 35-40 euros, vous ne pouvez pas. Je ne vous parle pas d'Agadez et de Diffa pour lesquels il faut payer entre 50 et 60 euros.
40 euros pour aller à Maradi depuis la capitale.
40 euros. 40 euros Niamey... pour aller à Maradi, Zander, la capitale.
Niamey-Maradi, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Hein. C'est quoi, 500, 600 kilomètres
hein. Niamey-Zander, 40 euros. Niamey-Maradi, c'est dans les environs de 30 euros.
Ouais.
Mais vous comprendrez que pour le Nigérien moyen, qui, entre le choix de se faire délivrer juste un certificat, je dis bien, comment on appelle ça, un certificat de casier judiciaire pour lequel il est obligé de quitter sa ville de naissance pour venir souvent jusqu'à à Niamey, le choix est très vite fait entre prendre le transport deux fois 40 euros que de s'acheter un sac de riz.
Ouais, évidemment. Merci Abdelwahab de ce témoignage, de cette réalité au Niger. Bonne journée, bon courage à vous. Il nous reste 4 minutes avant de rendre l'antenne pour retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI, la dernière édition d'Afrique Matin, et on reviendra évidemment tout de suite après pour la deuxième partie de cette émission. Un petit détour sur la page Facebook. Adama à Saint-Louis au Sénégal nous dit que dans son pays l'accès à l'éducation ne pose plus de problème, même s'il reste des choses à améliorer au niveau des zones rurales, mais l'accès à l'électricité est catastrophique. Plus de la moitié de la population sénégalaise vit en zone rurale et une portion minime de ces villages est électrifiée. Daniel, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous nous avez envoyé un WhatsApp. Vous êtes à Gisenyi, au Rwanda, et vous souhaitiez témoigner justement de l'accès aux services publics dans votre pays.
Bien sûr, Juan. J'aimerais d'abord dire concernant l'éducation. En ce qui concerne l'éducation dans mon pays d'origine, c'est une chose qu'on a déjà résolue, ce n'est plus un problème au sein de la population du Rwanda. Parce que, par exemple, premièrement, l'un des pays où le gouvernement sollicite les parents d'amener leurs enfants à l'école, qui n'est pas chose facile en Afrique, où on prend l'audace de faire une campagne d'appeler les parents, d'amener leurs enfants à l'école, parce que les frais, l'accès à l'éducation, c'est facile, c'est...
Vous diriez, Daniel, qu'il y a des écoles dans tous les villages?
Oui, bien sûr, parce qu'actuellement, il y a même un programme qu'on dit rapprochement. On est en train de faciliter aux gens qui sont plus loin, dans des kilomètres plus lointains, à la population pour qu'ils puissent avoir l'accès, qu'ils puissent avoir l'accès à l'éducation plus proche de la population, qui est une bonne chose, surtout en Afrique comparativement dans d'autres pays où les gens font des kilomètres pour aller étudier, mais chez nous, partout, il y a des écoles qui facilitent aux enfants le moins de 5 ans d'aller vraiment à l'école, qui est une chose encourageable dans mon pays.
Est-ce que c'est une école gratuite? Je vous pose la question car certains auditeurs nous disent dans nos pays, on nous annonce une école élémentaire gratuite, mais au final, nous sommes obligés de payer les instituteurs. Est-ce que c'est le cas également dans votre pays?
Pour mon pays, c'est pas le cas parce que réellement, si on dit gratuite, c'est gratuite parce que les gens étudient gratuitement ou parce que le prévanait qu'est lorsqu'on on lance une campagne d'appeler les gens d'amener les enfants à l'école, c'est pas payant. On ne peut pas obliger les gens d'amener les enfants à l'école si c'est payant. Donc c'est gratuit et c'est réel. C'est quelque chose qui est réel. Pour nous, l'école primaire, c'est gratuite au Rwanda.
Bien, merci de ce témoignage et merci de nous avoir envoyé ce témoignage donc sur le compte WhatsApp de l'émission. J'en profite pour redonner le téléphone, le 33 6 89 28 53 64, un compte WhatsApp juste pour nous envoyer des questions et des réactions. Parlez-nous ce matin de l'accès à l'éducation, la santé, l'électricité, l'eau potable, la justice, la protection sociale. Parlez-nous des services publics dans votre pays. C'est à suivre dans 10 minutes.